Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Vous les avez déjà vus, les titres de presse commençant par « Selon une étude où la science dit que ». Au-delà d'être un moyen de nous faire cliquer et parfois créer un buzz, comment se construit réellement le savoir scientifique ? Car une étude seule, ça ne suffit pas. C'est l'accumulation d'études, dont les résultats pointent dans la même direction, qui permet d'acquérir un savoir solide, et c'est essentiel pour construire des consensus scientifiques robustes et indépendants du facteur chance. Mais la recherche scientifique fait face depuis quelques années à une crise, celle de la réplicabilité. Pour parler de cette crise de la réplicabilité ou de la reproductibilité, nous accueillons en plateau pour cette émission Aurélien Allard. Tu es docteur en philosophie et maître de conférences en méthodologie et statistique à Nantes Université. Alors pour le contexte, on s'est rencontrés en études, ça fait quelques années qu'on se connaît, donc exceptionnellement, je vais te tutoyer pendant l'émission. Tu travailles notamment sur la métascience, c'est-à-dire comment la science est fabriquée par les scientifiques, en t'intéressant notamment aux fonctions remplies par les réplications d'expériences scientifiques. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter deux bénévoles du Labo des Savoirs, Jérémy qui nous parlera des revues prédatrices, et Charlotte qui nous expliquera comment faire la différence entre les vraies sciences et les pseudosciences avec quelques notions d'épistémologie. Enfin, nous entendrons un extrait de l'émission Le Vortex, produit par Arte avec Hygiène mentale et Zeste de science.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
On l'a dit en introduction, dans cette émission, le thème du jour porte sur ce que l'on appelle la crise de la réplicabilité, qui touche les sciences depuis quelques années. Pour des personnes qui ne connaissent pas le domaine académique, universitaire, cette notion n'évoque pas grand-chose. Aurélien Allard, je le rappelle, tu es docteur en philosophie et maître de conférences en méthodologie et statistique à Nantes Université. Répliquer une étude scientifique, ça veut dire quoi et pour quelles raisons les scientifiques font ça ?
Alors, répliquer une étude scientifique, ça consiste à essayer de réutiliser plus ou moins la même méthode qu'une étude ou qu'une expérience précédente et de voir, en fait, en restant le plus proche possible ou en faisant des variations dans la méthode, voir si on obtient des résultats similaires ou différents de ceux obtenus initialement.
Et pourquoi, du coup, on a intérêt à répliquer les études ?
En fait, c'est extrêmement utile pour voir la fiabilité de la recherche qui a été publiée. Donc, globalement, la plupart des gens, y compris des scientifiques, font plutôt confiance aux études qui ont été publiées. Mais à un moment, c'est quand même une bonne question de se savoir si on obtiendrait quand même les mêmes résultats si on refaisait l'étude une, deux fois, deux fois, cent fois, etc. Et du coup, ça a plusieurs fonctions, ça peut servir à plusieurs choses différentes. Donc une, c'est si on s'intéresse à une question en particulier, par exemple à l'efficacité d'un médicament ou une thérapie, voir si effectivement ça marche bien, cette thérapie. Bon, ça peut être aussi de se demander à quelle mesure les études sont fiables, en général, pas liées à une thérapie en particulier. Et ça peut être juste aussi un moyen aussi potentiellement de chercher à fliquer d'autres scientifiques en voyant si leurs études en particulier sont bien fiables dans ce cas-là. Mais ce dernier cas, c'est un peu plus marginal.
Donc ça servirait à étudier la rigueur en fait, des personnes, donc des scientifiques en eux-mêmes et en elles-mêmes.
Oui, sachant que c'est une... Alors, la rigueur, c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais bien utiliser dans ce cas-là, parce qu'il y a plein de raisons différentes pour lesquelles une étude peut ne pas répliquer. Ça peut être dans... Enfin bon, il y a des cas très nets, évidemment, dans des études de psychologie faites dans différents pays, il y a des bonnes raisons pour lesquelles on va obtenir des résultats différents. Il y a des études aussi qui peuvent très bien répliquer, mais on peut considérer qu'elles n'ont pas été faites avec beaucoup de rigueur, parce qu'il y a un facteur confondant évident. Qui expliquerait autrement les résultats, même s'ils sont des résultats qu'on arrive à reproduire plein de fois. Donc, la rigueur, c'est beaucoup plus complexe que juste est-ce que ça réplique ou pas, mais c'est une certaine idée de fiabilité des résultats.
Ok, et du coup, tu mentionnais le fait qu'on réutilise les mêmes méthodes pour répliquer. Donc là, c'est encore différent que de prendre les mêmes données et de voir si on arrive aussi à trouver les mêmes résultats, c'est ça ?
Ouais, alors en fait, il y a une distinction que tout le monde n'utilise pas entre reproduire des résultats et répliquer des résultats. Donc reproduire des résultats, ça veut dire en fait on a récupéré les données des chercheurs originaux et on voit en fait si on arrive en faisant les mêmes analyses qu'eux à obtenir les mêmes résultats. Et donc ça en fait c'est très très bête parce que en théorie, s'il n'y a pas eu d'erreur majeure, on doit toujours réussir à obtenir les mêmes conclusions avec les mêmes données. Donc, par contre, répliquer, ça implique d'obtenir des nouvelles données, donc vraiment de refaire l'étude. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de chances que ça échoue.
Et du coup, est-ce que c'est grave si les études ne les répliquent pas? C'est quoi les conséquences pour le domaine académique?
Ça, c'est une bonne question. En fait, ça peut sembler évident que ça a des conséquences très, très négatives. Parce que c'est quand même, on attend de la science qu'elle produise quand même des résultats fiables sur lesquels on puisse se baser pour faire la recherche ultérieure. Donc, les premières conséquences, c'est juste de, ben, en fait, on ne peut pas vraiment faire confiance aux études telles qu'elles sont publiées. Et ça a évidemment des conséquences très pratiques en termes de bah, si on fait des applications de ces études dans la vraie vie, dans le cadre d'une thérapie, dans le cadre d'un médicament, dans le cadre d'interventions sociales, et que ces résultats ne sont pas robustes, eh bien en fait on va gâcher énormément d'argent dans la vie pratique.
Et donc là, la crise de la réplicabilité, c'est venu parce que enfin des scientifiques ou des équipes ont cherché à répliquer et qu'on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas, ou c'est quoi l'origine de cette crise? Pourquoi on la nomme crise? Et est-ce qu'il y a une temporalité? Est-ce que ça fait 45 ans qu'elle existe, ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup plus récent?
Alors, les problèmes de réplicabilité, le fait de ne pas réussir à reproduire des études, ça a potentiellement une très très longue histoire. Mais le fait qu'on ait vraiment un sentiment qu'il y ait une crise, quelque chose d'extrêmement problématique, c'est beaucoup plus récent. Alors, ça dépend des disciplines. Souvent, l'expression de crise de la réplicabilité, c'est plutôt lié à la psychologie, qui est en fait le domaine où j'ai fait le plus d'études. Et donc, en fait, la psychologie, il y a eu une apparition de la crise de la réplicabilité, enfin, dès en les années 2011-2012. Et cette origine pour la psychologie, en fait, c'est lié à un certain nombre de scandales qui sont liés, bon, à plusieurs expériences qui n'ont pas réussi à être répliquées à l'époque et qui ont donné lieu, en fait, à des études de très grande échelle pour voir dans quelle mesure la psychologie était une science fiable. Et à partir de là, en fait, ça a un peu disséminé à d'autres domaines. Et par ailleurs, en fait, ça, c'est l'expérience pour la psychologie et les sciences sociales, mais depuis les années 2000, 2005-2010, il y avait aussi eu des préoccupations parallèles en sciences biomédicales qui ont donné lieu en fait à un sentiment de crise un peu généralisé entre différentes disciplines.
Et du coup, tu mentionnais quelques scandales qui ont un peu éclaté. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples?
Alors, en psychologie, c'était très particulier, mais le plus gros scandale, enfin, ce qui est souvent mentionné comme étant à l'origine de la crise de réplicabilité, c'était les expériences d'un psychologue américain qui s'appelle Daryl Bem. En fait, qui était un psychologue social relativement réputé à l'époque, mais qui par ailleurs était persuadé que les perceptions extrasensorielles existaient. Et donc, on était capable, en fait, de prévoir le futur, globalement.
Ça m'arrangerait beaucoup.
Ouais, non, c'est pratique. Et ce qu'il a fait, en fait, dans les années 2000, c'est qu'il a fait une série de 9 études où il a obtenu des résultats en faveur de l'existence de perceptions extrasensorielles. Donc, les études, c'était des études où on demandait aux gens, en fait, de prédire où va apparaître une certaine image sur un écran, à droite ou à gauche. Et ce qu'il a essayé de montrer, en fait, c'est que les gens y arrivaient mieux que le hasard. Donc, ils arrivaient vraiment à prédire l'avenir. Et bon, ce genre de résultat un peu farfelu, il y en a énormément. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui essayaient de prouver que les perceptions extrasensorielles marchent ou pas. Mais lui, ce qu'il a fait, qui était très fort, c'est qu'il a fait 9 études et il a soumis cet article, en fait, à la revue la plus célèbre de psychologie sociale de l'époque, qui s'appelle Journal of Personality and Social Psychology, donc, qui est souvent considéré comme étant un peu un graal pour la psychologie sociale. Et en fait, ce qui a été incroyable, hein, c'est que cette revue en fait, a accepté l'article. Et ils ne se sont pas dit oh, mais c'est ma revue, on a prouvé les perceptions extrasensorielles. Ils se sont juste dit bah, en fait, ce psychologue, bon, c'est un psychologue social connu, et il a utilisé exactement les mêmes méthodes et les mêmes techniques qu'on utilise tous en psychologie sociale, et il a réussi à prouver un résultat absurde. Et donc, ils se sont dit, en fait, on n'a pas de raison de rejeter cette étude en termes de rigueur, c'est juste que les résultats ne nous plaisent pas. Donc, ils l'ont publié.
Donc, c'est un peu par honnêteté, en fait, intellectuelle que voilà, ça a été publié ou...
Oui, non, non, d'une certaine manière, c'est ça. Après, il y a eu des précédents. Enfin, il y avait une étude anti-vaccin qui avait été publiée, je crois, dans Nature, où de la même manière, l'éditeur ne croyait pas du tout à ça. Et en fait, c'est... Bon, mes parents d'éthique intellectuelle, ils ont décidé de faire ça, de publier cette étude.
Et comment ça a été le début de la crise, du coup ? Parce qu'une fois que l'étude est publiée, du coup, dans cette revue très, très importante, enfin, voilà, derrière, il y a d'autres personnes qui se sont rendues compte que ces résultats étaient farfelus parce que elles avaient besoin de faire de la revue de littérature, donc de chercher des articles scientifiques qui étaient disponibles. Et elles se sont rendues compte que les résultats étaient absurdes. Et c'est à partir de là que on s'est rendu compte que les études n'étaient pas forcément fiables. Comment on est arrivé à savoir que c'était pas si rigoureux?
Évidemment, dès que c'est sorti, ça fait scandale parce que tout le monde s'est dit que c'était n'importe quoi cette étude et qu'il devait y avoir des énormes problèmes. Et donc ça a fait... Le fait qu'on ait réussi à publier n'importe quoi dans la revue la plus prestigieuse, en soi, c'était une source de discussion au sein de la discipline. Ensuite, il y a des gens qui ont essayé de répliquer les études de Daryl Bem, de ce psychologue, qui ont échoué. Mais par ailleurs, en fait, ce qui a fait un certain nombre de crises généralisées, c'est qu'il y a eu plein d'autres scandales dans les mêmes années. Un autre scandale, ça a été un psychologue néerlandais qui s'appelait Diederik Stapel, qui était assez connu pour lui qui a été, en fait... condamné plus ou moins pour fraude scientifique. Donc lui, il avait publié des centaines d'études, au moins des dizaines d'études, et en fait, tout était complètement falsifié. Donc ça, c'était pas du tout lié au problème de perception extrasensorielle, mais ça a fait scandale. Une troisième cause de scandale, ça a été le fait que des psychologues belges ont essayé de répliquer une étude d'un psychologue américain très connu, qui s'appelait John Barge, et en fait, qui ont échoué à répliquer ça. Bon, ça en soi, ça arrive régulièrement, c'est pas un si gros scandale, mais en fait, Barge s'est montré extrêmement agressif et a insulté en fait les psychologues belges en les traitant d'incompétents. Donc ça a fait encore une plus grande source de scandale. Et par ailleurs, au sein de ces multiples scandales dans la discipline, il y a eu trois méthodologistes américains qui en fait ont publié une étude en montrant comment on pouvait arriver à prouver n'importe quoi avec les méthodes employées en psychologie. Et donc, en fait, ça fournit une sorte de... En expliquant, en fait, les problèmes statistiques dans la plupart des études. Et en fait, ça fournit une grille d'analyse pour la plupart des chercheurs. On s'en dit, c'est pour ça qu'on a autant de problèmes. C'est parce qu'il y a eu tous ces scandales. Enfin, toutes ces techniques douteuses qui permettent de prouver n'importe quoi.
Donc j'imagine que ça a pu permettre d'éclairer justement les résultats et de mieux comprendre comment Daryl Bem avait pu sortir des résultats qui montraient qu'on avait des perceptions extrasensorielles. Et du coup, justement à ce propos-là, Charlotte, une des bénévoles du Labo des Savoirs, s'est intéressée à la distinction entre vraie science et pseudo-science, parce que la médiumnité n'est pas une vraie science. Et donc c'est grâce à l'épistémologie qu'on arrive à savoir et à distinguer ce qui relève d'une science et ce qui ne relève pas d'une science. Et je laisse Charlotte nous expliquer de quoi il s'agit.
Pourquoi l'astrologie, la radiesthésie, le magnétisme, toutes ces théories ne seraient pas considérées comme scientifiques ? Il doit bien y avoir un moyen de faire une ligne nette entre science et pseudo-science. Y a-t-il des critères ? Et comme tu l'as évoqué, l'épistémologie arrive à la rescousse pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Il faut savoir qu'en français, ce terme a plusieurs sens. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'épistémologie, en s'appuyant sur la philosophie et l'histoire des sciences, se propose d'étudier comment est faite la science. Facile, non ? En fait, si on sait comment elle est faite, on saura la différencier de ce qui n'est pas la science. Et pour Descartes, Galilée, Newton, Leibniz, c'est clair. La science, c'est ce dont on est certain. Ce qui est incertain, c'est une opinion. Mais à la fin du 19e siècle, c'est la douche froide. De nombreuses nouvelles découvertes viennent ébranler des vérités qu'on croyait absolues. L'exemple le plus connu est celui des lois de la gravitation universelle énoncées par Newton, qui sont restées incontestées pendant plus de deux siècles, avant d'être remises en question lorsque des anomalies commencent à apparaître. La théorie de Newton, bien que extrêmement précise dans la majorité des cas, n'est finalement pas la vérité absolue. Einstein propose alors son modèle de la relativité générale. Et même si c'est le modèle dominant aujourd'hui, rien ne dit qu'il ne sera pas remplacé ou complété dans les années ou siècles à venir. Donc oui, le fait qu'une théorie ait fonctionné jusqu'ici ne garantit pas qu'elle soit vraie en toutes circonstances. La connaissance certaine n'est donc jamais atteignable. Oui, donc Julie, tu pourrais me dire, si la certitude absolue n'existe pas, on ne peut jamais rien savoir. Selon cette logique, je peux sérieusement considérer que Mercure qui rétrograde est responsable de la mauvaise humeur de mes potes. Alors, attention. Le fait qu'aucune connaissance scientifique ne soit absolument certaine ne signifie pas que l'on doit tout mettre sur le même plan. Pour le philosophe des sciences Karl Popper, par exemple, le critère de réfutabilité, ou falsification en anglais, est un critère essentiel pour savoir si une théorie est scientifique ou non. Il faut non seulement qu'elle fasse des prédictions, mais surtout qu'elle prenne le risque de pouvoir être contredite par l'expérience. Une théorie qui s'adapte à tout n'explique en réalité rien du tout. Allez hop, l'astrologie, tu passes dans le camp des pseudosciences. Tant qu'une théorie réfutable n'est pas contredite, elle est dite corroborée. Elle reste la meilleure approximation de ce qui est vrai en fonction de ce qu'on connaît à un instant T. Ainsi, la science progresse en affinant ou remplaçant ses théories par des modèles de plus en plus précis et de plus en plus universels. Mais aucune théorie, même corroborée, n'est définitive. Elle peut être toujours réfutée par de nouvelles découvertes. Cependant, toutes les sciences ne répondent pas strictement aux critères de réfutabilité. Par exemple, la biologie évolutive. Elle ne peut pas toujours formuler des prédictions précises sur l'évolution future des espèces. On ne peut pas refaire l'évolution d'une espèce en laboratoire pour vérifier si elle prendra exactement le même chemin. Pourtant, la biologie évolutive reste scientifique grâce à une accumulation de résultats et de preuves convergentes. Il faut donc repenser la frontière entre les sciences et les pseudosciences, non pas comme une ligne nette, mais comme une zone grise où coexistent des disciplines. Entre la science établie et les croyances en astrologie, ah ouais, ça en prend plein la figure pendant cette chronique. Il existe donc des théories pas encore totalement matures, mais pas des pseudosciences non plus. Elles doivent encore affiner leurs modèles, tester leurs prédictions et améliorer leur reproductibilité. C'est précisément cette capacité d'autocorrection qui distingue la science des autres domaines. La crise de la reproductibilité, loin de légitimer les pseudosciences, illustre au contraire la force du processus scientifique. Il repose sur de constantes remises en question et une amélioration continue de ses méthodologies. Donc merci l'épistémologie.
Merci Charlotte pour ce rappel très utile. Maintenant qu'on a bien compris de quoi on parle quand on évoque de la crise de la réplicabilité et qu'on a vu les différents scandales qui ont mis en lumière des travers dans la méthode scientifique, on parlera dans la deuxième partie de ces pratiques méthodologiques qui laissent à désirer. C'est juste après la pause musicale. On écoute tout de suite Roman Santarelli avec son titre « Water Moon Pattern ».
Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
C'était Watermoon Pattern de Roman Santarelli. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes de retour en plateau avec Aurélien Allard, docteur en philosophie et maître de conférences en méthodologie et statistique à Nantes Université, pour parler de la crise de la réplicabilité dans le milieu scientifique académique. Régulièrement, depuis le début de cette crise de la réplicabilité, des équipes de recherche mesurent le nombre de publications admises dans les revues scientifiques, car c'est aussi un indicateur de cette crise. Le monde académique publie de plus en plus. Ainsi, une étude récente de 2023, Danson et collègues, estime qu'en 2016, 1,9 million d'articles avaient été publiés et qu'en 2023, c'était près de 2,8 millions d'articles. Une augmentation de 47% tout de même, et cela malgré le fait qu'il n'y ait pas davantage de personnes qui ont obtenu un doctorat entre les deux périodes. La tendance irait même à la baisse. Selon les auteurs, cela montre bien qu'en moyenne, les scientifiques publient plus. Pour pouvoir publier, une des règles un peu tacites est d'avoir un résultat significatif. Il est rare que des résultats non significatifs soient publiés dans des revues. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir un résultat significatif ? On écoute pour cela un extrait du Vortex, une émission d'Arte avec le vulgarisateur Hygiène Mentale.
Une étude scientifique a même pas besoin d'être vraiment fausse pour ne pas être reproductible. Ça peut simplement être un cas où on a juste eu de la chance avec les échantillons. Si j'ai, disons, une centaine de personnes volontaires et que je demande à la moitié d'entre eux de boire beaucoup de café et aux autres de ne pas boire de café et que je surveille leur état de santé sur des années. Parfois, c'est ceux du premier groupe qui, en moyenne, seront plus malades. Parfois, c'est ceux du deuxième groupe. C'est aléatoire parce qu'il y a plein d'autres facteurs inconnus qui comptent. Les virus, les gènes, la chance. Pour s'assurer que ça vient bien du café, les scientifiques calculent en priorité les chances que l'on avait d'observer ce résultat si le café n'avait aucun effet. Ce chiffre-là, on l'appelle la valeur P. S'il y a moins de 5% de chances que ce soit juste dû au hasard, on conclura que ce n'est pas juste le hasard. On dira que l'étude est significative. Mais ça veut dire aussi que si tout se passe bien, sans erreur, sans fraude ni corruption, et que le café n'a aucun effet, alors 5% des études sont juste des faux positifs. Du coup, s'il existe des centaines d'études sur un sujet, il y aura toujours un certain nombre d'études qui prouvent que le phénomène en question existe. Mais cette valeur de significativité est souvent mal comprise. Les statisticiens n'arrêtent pas de mettre en garde les chercheurs contre ce genre de mauvaises interprétations de cette valeur P.
Alors, on parlait de ce que ça veut dire d'avoir un résultat significatif. Donc, il existe toujours 5% de chances qu'on se trompe, mais qu'on ait un résultat positif dans les études scientifiques. Est-ce que c'est ce seuil de significativité qui conduit les scientifiques à adopter de mauvaises pratiques de recherche pour faire en sorte que leurs résultats rentrent sous ce seuil et qu'on puisse dire que c'est significatif?
C'est une question assez vaste, dans le sens où ça demanderait de repenser à, ok, si on n'avait pas ce seuil de significativité, est-ce que les pratiques de recherche seraient meilleures? Il n'y a pas d'études, à ma connaissance, vraiment systématiques pour savoir dans quelle mesure ce serait mieux, mais des anecdotes, hein, par rapport à des comparaisons, par rapport à des revues qui avaient banni la valeur P, semblent montrer en fait que ce n'est pas forcément la valeur P en soi, mais en elle-même qui est coupable. Dans le sens où, même si vous n'utilisez pas de valeur P, même si vous ne cherchez pas à avoir des résultats significatifs, ce que vous allez chercher à faire quand même, quand vous essayez de publier un article, c'est d'avoir des résultats intéressants. Et donc, en fait, vous allez essayer de prouver qu'en fait, votre méthode marche quand même. Et en fait, même si vous n'utilisez pas de valeur P, vous avez plein d'autres manières de montrer que votre méthode marche. Par exemple, le fait juste d'avoir un groupe qui va avoir une très très haute moyenne par rapport à l'autre groupe. Par exemple, si vous essayez de vous mesurer si votre étude a fait baisser la dépression, bah, peut-être que même sans valeur P, vous allez quand même chercher à montrer qu'il y aura une forte réduction de la dépression grâce à votre nouvelle thérapie. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas tellement la valeur P, je pense qu'on vient d'entendre, qui fait qu'il y a des problèmes. Au contraire, je pense que la valeur P, c'est plus un correctif qui limite, en fait, les possibilités de manipulation. C'est plus le fait qu'on cherche toujours à impressionner ou bien les autres chercheurs ou à bien impressionner le public. Et c'est ça qui donne des fortes incitations à avoir les résultats les plus intéressants possibles.
Et du coup, les pratiques de réplicabilité, c'est pour justement vérifier que les études publiées n'ont pas obtenu de résultats par chance, quelque part.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Oui, non, ça marche bien.
Et du coup, quelles sont les mauvaises pratiques de recherche? Donc, quand on n'a pas forcément envie, voilà, d'avoir, quand on n'a pas forcément besoin d'avoir une valeur significative pour publier, voilà, peut-être qu'on a des résultats où la moyenne est vraiment différente, donc on peut se dire que les résultats n'arrivent pas par chance. Il existe quand même des pratiques un peu frauduleuses, on en a parlé dans la première partie. Quelles sont-elles?
En fait, le problème, c'est que il y a des pratiques qui sont considérées comme étant clairement frauduleuses, et ça, en fait, les chercheurs vont pas essayer de les faire. Par exemple, inventer des données de toutes pièces dans la direction qui vous arrange, ça, bon, c'est considéré comme étant pas terrible en science. Mais après, en fait, le problème, c'est qu'il y a une énorme zone grise de ce qu'on appelle les pratiques douteuses de recherche, où, en fait, dans certaines circonstances, ça peut être des pratiques qui sont des bonnes pratiques, et dans d'autres circonstances, en fait, ça peut être des pratiques vraiment extrêmement problématiques. Et c'est des pratiques problématiques si elles conduisent précisément à, du coup, exagérer fortement les résultats. Donc, une pratique, par exemple, ça peut être le fait d'éliminer des données aberrantes. Donc, des données aberrantes, c'est des participants dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils ont, du coup, répondu n'importe quoi, potentiellement parce qu'ils n'ont pas compris la question, potentiellement parce qu'ils cherchaient à troller, en fait. Enfin, ça arrive dans toutes les études faites sur des humains. Ça peut arriver aussi en physique. Enfin, il y a toujours des problèmes avec des données aberrantes, et ça peut être des artefacts dans la méthodologie ou des choses comme ça. Donc, en fait, enlever des données aberrantes, ça peut être très très bien en science. Et il faut évidemment toujours se poser la question de est-ce que toutes nos données sont vraiment des bonnes données. Mais si on enlève exclusivement les données aberrantes dans le groupe qui nous arrange de telle sorte à ce que, en fait, on augmente la différence de moyenne entre nos deux groupes, dans ce cas-là, ça peut être très problématique. En fait, il faut juste le faire de façon impartiale et pas le faire de façon biaisée. Mauvaise pratique douteuse de recherche potentielle, c'est d'utiliser plusieurs manières de mesurer ce qu'on appelle notre variable dépendance, donc la variable qu'on cherche à mesurer. Par exemple, on fait un test de dépression, toujours en psychologie clinique, et en fait, on a souvent plusieurs manières de mesurer la dépression. En fait, il y a plusieurs tests cliniques de dépression, ça peut être des questionnaires mesurés par le patient lui-même, mesurés par une autre personne, et en fait, à chaque fois, il y a plein de manières différentes de mesurer la dépression. Et ça, c'est très bien en soi. Enfin, c'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas un seul questionnaire qui est le questionnaire magique qui va donner toujours les bonnes réponses. Mais en fait, si vous faites passer plusieurs mesures de dépression et que vous gardez en fait uniquement la mesure de dépression qui va donner l'effet le plus beau, le plus incroyable pour votre traitement, enfin pour votre condition expérimentale, et bien dans ce cas-là, ça va être très problématique. Donc ça, c'est une autre manière, en fait, une autre pratique qui en soi n'est pas problématique, mais qui peut être assez douteuse. Une autre manière, c'est de faire avoir plusieurs conditions expérimentales. Par exemple, on teste pas mal de traitements différents, et en fait, on se concentre juste sur le traitement. Donc en fait, la vie d'un chercheur, c'est très compliqué. Il y a toujours énormément de choix à faire. Et de choix à faire à n'importe quelle étape de la recherche. Dans le traitement des données, dans les choix des analyses statistiques, dans le choix des conditions expérimentales. Et en fait, ça, c'est très bien, et c'est bien qu'il y ait un peu de flexibilité où les chercheurs puissent être un peu libres. Mais quand on exploite au maximum la flexibilité pour à chaque fois choisir le résultat qui nous arrange le plus, dans ce cas-là, ça peut produire en fait une distorsion gigantesque des résultats.
Et du coup, dans certaines études, donc là, j'ai l'impression des pratiques qui sont un peu involontaires. On a l'impression de bien faire, potentiellement de justifier correctement le fait d'enlever certaines données plutôt que d'autres. Mais ça, c'est selon notre propre prisme. Est-ce que, malgré ça, on peut quand même avoir de mauvaises justifications et procéder à des pratiques un peu douteuses et biaiser finalement le résultat final? C'est quelque chose qui arrive du coup dans les études qui sont publiées. Comment on sait quelle pratique est utilisée dans les études qui ne sont pas répliquées ou qui posent problème?
Globalement, c'est qu'on sait qu'il y a énormément de problèmes de réplicabilité. Enfin, en psychologie, par exemple, il y a à peu près un certain projet de réplication, il n'y avait que 36% des études qui répliquaient. Donc vraiment énormément de problèmes. Après, pour savoir quelle est la cause exacte du fait que ces études ne répliquent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Pour savoir exactement pourquoi, enfin, quelles sont les pratiques douteuses qui sont à l'origine de ces problèmes de réplicabilité, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a énormément d'indices que les chercheurs ont énormément de marge de liberté et que le fait, et c'est assez plausible en fait qu'employer ces marges de liberté conduit à des problèmes de réplicabilité. Après, j'ai pas de connaissances d'études qui montrent que c'est une pratique en particulier. Je pense que c'est plus un ensemble global où les chercheurs, en fait, juste par manque de connaissances statistiques ou par manque de compréhension méthodologique, essaient plein de trucs. Et ça va conduire à des problèmes globaux.
Et du coup, cette accumulation de non-réplicabilité, donc on en a un petit peu parlé, mais elle a des conséquences dans la communauté scientifique. Peut-être que ça nous fait atteindre des consensus de manière plus lente, j'imagine, si en fait il y a des études qui sont petit à petit, qui sont un peu moins fiables que d'autres et qu'on doit sans cesse répliquer. Est-ce que ça vient aussi polluer à d'autres étapes ? Donc, je pense notamment quand on fait des revues systématiques, quand on essaye de voir et de lire vraiment des centaines, par exemple, d'articles différents, ou même de faire des méta-analyses. Comment on peut savoir que certains articles sont fiables ou peu fiables ? Est-ce qu'il y a des pratiques justement pour essayer d'avoir des espèces de synthèses d'études qui sont un peu moins polluées par des études qui ne sont pas très fiables ?
Alors, globalement, une chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est le fait que quand on fait une revue systématique ou une méta-analyse, donc on essaie de combiner plein d'études ensemble pour obtenir une estimation fiable de est-ce qu'un traitement marche, par exemple, ces collectes d'études, en fait, ça ne donne des résultats fiables que si toutes les études à la base sont non biaisées ou que la majorité d'entre elles sont non biaisées. Faire une étude revue systématique ou une méta-analyse avec plein d'études qui sont biaisées, en fait, ça donne des résultats qui sont complètement biaisés. Et il y a il y a des littératures, des collections d'études en psychologie, où en fait, on a pu faire la combinaison de centaines d'études et où le résultat final donné par les méta-analyses, c'était « Ah bah oui, il y a un effet énorme ici ». Donc, par exemple, par rapport à ce qu'on a appelé la baisse de l'ego, donc il y a une étude classique en psychologie sociale, par exemple, c'est quelque chose comme « résister à la tentation », ça va vous conduire plus tard en fait, à être complètement épuisé et à devenir beaucoup plus immoral ou avoir beaucoup plus de mal à vous contrôler. D'accord. Et donc, c'est des études qui montrent que vraiment, même 5 minutes de résister à la tentation, ça vous conduit à faire n'importe quoi après. Bon, ça, il y a vraiment des études, des centaines d'études qui ont montré que ça avait un impact gigantesque. Mais en fait, une fois qu'on a refait ça de façon plus rigoureuse, eh bien, en fait, ça ne marche pas du tout. Donc, ça, c'est juste un exemple où on peut avoir des centaines d'études qui vont toutes dans la même direction et où les centaines d'études se trompent quand même. Après, pour repérer s'il y a des gros problèmes dans les études, il y a pas mal, enfin, donc dans une méta-analyse, il y a pas mal en fait, de techniques pour voir si en fait, on a trop de résultats significatifs, par exemple, par rapport à ce dont on voudrait s'attendre. Par exemple, ça, c'est l'idée de... c'est pas possible que ça marche à chaque fois, comme l'avait dit Hygiène Mentale, je crois, dans la petite capsule. C'était l'idée que parfois il y a de la variabilité. Et parfois, même s'il y a un vrai effet, en fait, vous devriez avoir quand même de temps en temps des résultats qui ne sont pas significatifs. Et donc, si on voit qu'en fait que tous les résultats sont significatifs, qu'il n'y en a vraiment aucun non significatif, déjà c'est un petit problème. Et en fait, il y a pas mal de techniques qui permettent de repérer des études problématiques. Mais globalement, le consensus scientifique, c'est que ces techniques ne marchent pas parfaitement et qu'il y a toujours énormément de problèmes. C'est très dur de rattraper après coup la littérature scientifique et de dire après coup, en fait, on va éliminer ces études-là parce qu'elles sont fortement biaisées et on va garder que les études fiables. C'est ce qu'on essaie de faire. Hein. On essaie vraiment de regarder la littérature et de garder tout ce qui est le considéré comme le plus rigoureux. Mais ça ne marche pas très, très bien et c'est très dur de voir après coup ce qui a été fait de façon fiable ou non.
Et surtout, j'imagine que quand on essaye d'agglomérer des centaines d'études et qu'elles pointent toutes dans la même direction et qu'il n'y a quasiment que des résultats significatifs, ce qui est peut-être aussi un billet de publication. Et à ce propos-là, il y a un des bénévoles du Labo des Savoirs, Jérémy, souhaitait nous parler justement du système de publication des articles de recherche, parce que toutes les revues scientifiques ne se valent pas. Certaines seraient même à éviter. Donc je laisse Jérémy nous raconter tout ça.
De nombreuses institutions scientifiques appellent à éviter de publier dans ces revues dites prédatrices. Prédatrices de quoi ? De créatures fragiles dans cet écosystème féroce qu'est le monde de la recherche. Vous en connaissez peut-être, ces créatures que l'on se représente en blouse blanche ou à la bibliothèque. Des créatures paniquées à l'idée de ne pas passer leur thèse, ou de ne pas avoir de poste, de ne pas avoir de financement, ou de passer à côté d'une prestigieuse récompense. Bref, de scientifiques, jeunes ou plus expérimentés, dont l'évaluation passe quasi systématiquement par l'analyse de leur production d'articles. Figurez-vous qu'un parasite s'est développé dans ce biotope, la revue prédatrice. Cette revue cherche à ponctionner le peu d'argent dont disposent ces scientifiques pour leur proposer une réponse rapide et efficace à leur angoisse de ne pas être à la hauteur. Comment ce parasite s'y prend-il ? Vous le savez sûrement, les correspondances entre savants d'il y a quelques centaines d'années ont laissé place avec le temps à des revues, sortes de magazines pour scientifiques. Ce format s'est retrouvé plus facile à diffuser et plus structuré. Avec le déploiement de l'informatique et autres technologies de télécommunication, les revues ont encore pu plus se développer. Le mécanisme de vérification est lui aussi toujours présent, car publier dans une revue digne de ce nom, c'est aussi tout un processus de relecture par des pairs, experts et expertes, les reviewers, dont les retours bonifient les articles et amènent à détecter un maximum d'incohérences, d'erreurs, voire de fraudes. Nos revues prédatrices se contentent d'héberger à prix d'or vos PDF d'articles sans cette fameuse relecture. En gros, vous payez pour garantir une place à votre article dans le Journal of Machin Chose, ce qui vous permet d'ajouter une ligne à votre CV académique sans risquer de se faire retoquer par le processus de relecture. Est-ce si simple ? De moins en moins, la supercherie de nos chères revues parasites évolue avec la conscience de l'existence de ces pratiques. De nombreuses revues tentent de dissimuler leur réel objectif, donc à savoir extorquer de l'argent, derrière des comités éditoriaux plus ou moins fantomatiques ou encore des processus de relecture superficiels. C'est pour cela qu'il est difficile d'en faire l'inventaire, ce qui n'a pas empêché la section de sciences médicales du Conseil national des universités d'identifier les bonnes revues au travers d'une liste blanche mise à jour chaque trimestre. Donner des critères d'exclusion des revues prédatrices n'est pas non plus très simple. L'Office français pour l'intégrité scientifique, l'Office, propose la liste suivante. Examen par les pairs inexistant, mimétisme d'autres revues ou sites web, faux comité de rédaction, facteur d'impact alternatif ou factice, mensonge sur les membres des maisons d'édition, dissimulation des coûts de production, opération potentiellement illégale. Cocher deux ou trois de ces cases pose déjà sérieusement question. Alors malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre ces revues parasites, mais bien une démarche à suivre avant chaque publication, examiner l'activité d'une revue et en savoir plus sur ce qui la représente ou l'anime. Deux ressources peuvent aider les académiques en ce sens. L'initiative internationale Think Check Submit, qui propose une liste de questions à se poser avant de publier, ou le Compass to Publish de l'Université de Liège, qui aide à diagnostiquer le degré de fiabilité d'une revue. Alors contrairement à la métaphore filée tout au long de cette chronique, ce sujet n'est pas à prendre sous l'angle naturaliste, mais bien politique. Vous y retrouverez toutes vos marottes favorites. L'individualisme du monde de la recherche, la quête absurde de profit des entités capitalistes, la privatisation des résultats scientifiques majoritairement soutenus par des financements publics, et les mécaniques de domination dans les institutions scientifiques. Ces revues prédatrices ont ainsi pu trouver un milieu nourrissant pour détourner une partie des moyens censés soutenir la recherche, et tant que les règles ne changeront pas, ce sera difficile de s'en débarrasser pour de bon. Alors loin de moi après, l'idée de louer le fonctionnement des revues plus vertueuses. Il s'agit simplement d'une autre arnaque, altérant un peu moins la crédibilité de la science qui est diffusée. Quoique, quel est le sujet de l'émission déjà ?
Merci Jérémy pour cette super chronique. On en sait un peu mieux sur le système de publication des articles de recherche. Et juste avant cette chronique, on parlait des articles rétractés. Donc, il y a une étude en 2023 qui s'est intéressée justement à ce sujet. Donc, il y a à peu près 5% des articles qui ont été rétractés entre la période de 2012 et 2021. Et tu disais, Aurélien, que c'était un peu difficile justement de revenir sur ce qui avait été publié. C'est comment on rétracte un article ? Est-ce que, je ne sais pas, sur le site de l'éditeur, il y a un gros tampon rouge avec marqué « rétracté, ne pas utilisé » et c'est quoi les impacts du fait que ça a peut-être déjà été cité dans les autres, dans d'autres articles ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les articles rétractés, ça arrive très très rarement dans les bonnes revues scientifiques. Donc à l'heure actuelle, en fait, il y a énormément de rétractions, mais c'est quasiment que dans les revues prédatrices, qui sont des revues globalement que assez peu de monde lit. Par contre, les projets de les problèmes de réplicabilité, en fait, c'est toujours fait penser par rapport aux bonnes revues scientifiques. Bon, après, il n'y a pas de doute que c'est encore pire dans les revues prédatrices, mais de toute façon, personne les lit, donc c'est peut-être un peu moins un problème par rapport à ça. Mais si on se concentre sur les bonnes revues scientifiques, en fait, c'est que ça arrive quasiment jamais qu'un article est retiré de la littérature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, comme tu le disais juste avant, il y a un bandeau rouge, il y a une indication sur le site de l'éditeur, cet article a été rétracté. Après, en fait, c'est un processus qui est très, très compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait un assez fort accord de la part de l'éditeur, potentiellement aussi des auteurs, originel de l'étude, pour que l'article soit rétracté. La plupart du temps, en fait, ça arrive que s'il y a vraiment des preuves très très nettes de fraude scientifique. Dans la plupart des cas, en fait, il n'y a pas de rétraction, même si une étude n'a pas été répliquée de façon ultérieure. Ce qui n'est pas forcément un gros problème, en fait. Enfin, le fait d'avoir un article rétracté dans la littérature, c'est souvent vu comme étant un signe qu'il y a eu vraiment un gros problème dans l'article originel. Or, bon, ne pas répliquer, c'est un truc beaucoup plus courant, et du coup, c'est pas quelque chose pour lequel on fait une rétraction la plupart du temps.
Et donc, justement, pour corriger ces mauvaises pratiques, de nombreuses initiatives ont vu le jour dans la recherche académique, comme la création de projets de réplicabilité, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, de grande envergure, ou encore des révisions dans la manière de faire la recherche et de publier. On en parle juste après la pause musicale. On écoute toujours Roman Santarelli avec son titre Atlas.
La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
C'était Atlas de Roman Santarelli. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous parlons aujourd'hui de la crise de la réplicabilité avec notre invité Aurélien Allard, docteur en philosophie et maître de conférences en méthodologie et statistique à Nantes Université. Juste avant la pause musicale, on évoquait les différentes pratiques qui posent problème dans la fabrication des connaissances scientifiques et je me demande quelles sont les causes de l'existence de ces différentes pratiques douteuses. Est-ce que le manque de financement participe au fait que des scientifiques font de manière volontaire ou involontaire, usent en fait de ces pratiques douteuses? Est-ce que l'obligation de publication pour exister dans le milieu académique fait partie des causes qui incitent les chercheurs à utiliser ce genre de pratiques? Est-ce qu'on sait un peu pourquoi elles existent, ces pratiques?
Alors, j'aurais envie de dire non, on ne sait pas du tout pourquoi elles existent. Pour reprendre ce que tu as mentionné pour ce qu'on appelle le publish or perish, donc le fait de publier ou périsser, donc le fait qu'on ait des fortes incitations à publier dans les revues universitaires pour avancer sa carrière. C'est souvent présenté comme étant une des causes principales de la crise de la réplicabilité. C'est pas du tout évident que ce soit vraiment le cas. Il y a eu une étude, en tout cas, qui a essayé de comparer en fait différents pays en regardant dans quelle mesure il y avait une corrélation, donc un lien entre le fait d'avoir des fortes incitations à publier, le fait de publier des résultats qui n'étaient pas réplicables ou qui étaient potentiellement frauduleux. Et en fait, cette étude avait trouvé que c'était plutôt l'inverse, que c'est dans les pays où on avait le moins d'incitations à publier qu'on avait le plus de chances de publier des résultats douteux. Mais globalement, c'était pas une étude forcément hyper convaincante, hein, et on n'a pas de données générales. Je pense qu'il y a quand même, dans certains cas, des problèmes institutionnels très très nets. Hein. Par exemple, en pas mal d'années, la Chine, en fait, a donné des primes gigantesques pour les chercheurs s'ils publiaient dans des revues de haute réputation occidentale. Et en fait, ça conduit probablement à une très très forte augmentation de la fraude en Chine. Donc, le gouvernement chinois est revenu sur ça, heureusement, mais ça fait quand même pas mal d'années où les chercheurs chinois avaient des pratiques extrêmement douteuses. Donc, clairement, il peut y avoir des contextes institutionnels où il y a d'énormes problèmes. Mais après, une bonne partie des chercheurs dans le monde occidental, en fait, on a assez peu d'obligations de publier, dans le sens où on est tous un peu fonctionnaires, ou pas forcément fonctionnaires, mais on a ce qu'on appelle le tenure, donc le fait d'avoir une position fixe ou qui n'est pas limitée par des obligations de résultats. Après, souvent, les chercheurs, malgré ce manque d'incitation très très stricte, ressentent quand même le besoin de publier. Et on a tous envie de se justifier, on a tous envie de prouver qu'on fait des choses intéressantes. Et effectivement, c'est peut-être ce sentiment intérieur de il faut que je publie des choses intéressantes qui nous pousse à faire des pratiques douteuses, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément des incitations extérieures aussi fortes que dans d'autres secteurs.
Et du coup, est-ce que justement diminuer les incitations à la publication, ça fait partie des nouvelles réformes qui sont mises en place ou qui vont être mises en place de manière générale dans le domaine académique pour un peu avoir de meilleures pratiques de recherche?
Oui, alors le mouvement de la slow science, donc de la science lente, c'est un mouvement dont on parle depuis 15 ans. Le fait de publier moins, le fait de faire plus attention à ce qu'on publie, le fait de vraiment faire des grandes collaborations et ensemble de faire quelque chose de plus grande qualité. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui ne s'est pas énormément transmis en pratique à l'heure actuelle. Il n'y a pas vraiment de ralentissement de la publication scientifique. Donc du coup, c'est... Bon,
c'est un peu un vœu pieux.
C'est un vœu pieux, exactement. Ouais.
Okay. Mais parce que les scientifiques n'ont pas le temps, parce que les scientifiques n'ont pas l'argent, parce que faire des collaborations toujours plus grandes, avec plusieurs équipes, peut-être internationales, ça prend du temps, et du coup, il faut payer aussi ces personnes-là. Pourquoi ce n'est pas plus mis en place?
Alors, le problème de l'argent, ça reste un problème énorme. Après, c'est possible de faire n'importe quoi, même avec beaucoup d'argent. Donc, c'est assez compliqué de savoir dans quelle mesure c'est vraiment la cause principale. Globalement, Il y a énormément de problèmes dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Harvard ou Cornell ont eu énormément de scandales ces dernières années par rapport à ça, alors qu'ils ont objectivement bien plus d'argent que n'importe qui en France. Donc c'est assez dur de voir s'il y a un lien très très strict entre les ressources ou effectivement les résultats de recherche.
Et du coup, à part ce mouvement de slow science, quelles sont les différentes réformes qui existent à l'heure actuelle pour justement essayer de corriger le tir vis-à-vis des pratiques douteuses ?
Alors, le slow science, ça c'est quelque chose effectivement qui n'a pas eu énormément de succès, mais il y a eu plein d'autres mouvements de réforme des pratiques en sciences sociales et sciences biomédicales bien sûr, qui ont eu énormément de succès et qui ont vraiment changé le visage des pratiques scientifiques. Alors, avant la crise de la réplicabilité, les médecins, par exemple, enfin les chercheurs en sciences médicales, avaient déjà lancé un projet de réforme de l'enregistrement des essais cliniques, donc en fait, qui obligeait les chercheurs à mettre en ligne une version figée de leur protocole de recherche. Donc avant de tester l'efficacité d'un nouveau médicament, les médecins doivent dire « Ok, bon, bah, on va recruter tel nombre de participants dans le groupe avec les médicaments, donc tel groupe dans le groupe contrôle ou placebo, on va faire telles analyses scientifiques, etc. » De sorte, en fait, de se figer, de se lier les mains pour être sûr, en fait, qu'il n'y aura pas de manipulation des données après. Donc ça, c'est quelque chose que la médecine a mis en place progressivement, mais surtout à partir des années 2005.
Est-ce qu'il y a d'autres gens, du coup, enfin d'autres scientifiques qui regardent justement cet enregistrement avant de faire l'expérience pour justement donner leur avis et voir si, enfin, améliorer en fait la rigueur de la méthode, ou c'est juste voilà, l'équipe publie ça et elle a les mains liées en termes d'analyse statistique, elle peut pas juste faire autrement.
Alors, globalement, en général, personne ne regarde ça. C'est un des gros problèmes, en fait. Donc ça, cet enregistrement, ou pré-enregistrement, c'est quelque chose qui vient de la médecine, qui est devenu très courant en psychologie, un petit peu courant en sciences politiques et en économie, donc qui s'est globalement... tout le monde admire la médecine en général, donc tout le monde cherche à copier les pratiques de la médecine, mais du coup, ça c'est assez fortement répandu. Après, en pratique, effectivement, assez peu de gens regardent ça. Un des domaines où les gens regardent vraiment ça avec beaucoup d'attention, c'est dans le cas de la mise en place des médicaments. Donc si on veut mettre sur le marché un nouveau médicament, on doit demander aux autorités sanitaires si on a le droit de le faire. Et en fait, on soumet toutes nos données, et on soumet un certain nombre d'articles qui sont la base pour la mise en marché du médicament. Et en fait, les autorités sanitaires vérifient ça de près. Donc ça, c'est un domaine en fait, où il y a tellement... de conséquences pratiques, qu'il y a une vraie vérification de la rigueur des essais cliniques pour la mise en marché des médicaments. Donc ça, c'est vraiment un modèle, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Dans la plupart des domaines scientifiques, dans l'économie, en psychologie, en sciences politiques, très peu de gens vérifient les pré-enregistrements. Et du coup, en fait, ça n'a pas forcément énormément d'impact en pratique. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en place dans l'idée d'augmenter la fiabilité des résultats.
Et du coup, on parlait tout au long de l'émission d'études, de cohortes en fait très grandes, de projets de réplication. Est-ce qu'il y a encore à l'heure actuelle des grands projets de réplication en psychologie clinique ou autre ?
Alors, globalement, il y a eu une petite augmentation des réplications probablement au cours des années. Ça reste extrêmement marginal. Cependant, chaque année, il y a globalement des projets de réplication qui sont publiés. À l'heure actuelle, par exemple, il y a un projet de réplication qui est en train d'être fini, qui s'appelle le SCORE Project, où ils ont tenté de répliquer des centaines d'expériences en sciences humaines et sociales au cours des dernières années. Donc, ça reste un mouvement qui est vivant. Après, pour n'importe quel scientifique, la probabilité d'avoir ces études répliquées, en fait, enfin, d'avoir d'autres scientifiques qui tentent de refaire vos résultats, ça reste... infinitésimal. Enfin, ça reste vraiment très très rare. On continue de pratiquer extrêmement peu de réplication en science.
Mais après cette émission, on peut se dire que si les articles scientifiques ne sont pas fiables, rien ne l'est. C'est un peu désespérant. Donc pour conclure, est-ce que tu peux nous rassurer un petit peu ? Est-ce qu'on peut faire confiance malgré tout à la recherche scientifique ?
Alors, je ne sais pas si c'est mon rôle en particulier de rassurer, dans le sens où je pense qu'il y a vraiment des très gros problèmes dans la plupart des études publiées. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative. Et au fil des années, la science a accumulé quand même un nombre assez incroyable de résultats fiables qui ont effectivement contribué à changer la condition du jour au lendemain. Donc ça, c'est quand même d'un point de vue miraculeux. Une autre manière d'être assuré, c'est que dans les domaines où il y a les conséquences pratiques les plus nettes, je pense notamment aux vaccins, aux médicaments, là, les pratiques de vérification sont en fait d'un niveau sans commune mesure avec la plupart des projets de rigueur dans les sciences sociales. Donc, dans ce qui nous touche le plus en particulier, c'est quand même d'un niveau beaucoup plus, de fiabilité beaucoup plus importante. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Et quand même, l'avantage des 10 dernières années, c'est que ça nous a fait nous prendre conscience qu'il y avait un énorme problème et il y a quand même eu une ribambelle d'initiatives pour améliorer les choses. Je ne suis pas convaincu qu'elles aient encore eu un impact énorme pour la psychologie ou pour l'économie ou pour les sciences politiques, mais au moins il y a cette volonté de réforme et j'espère que ça va continuer à augmenter dans les prochaines années.
Il est déjà temps de conclure notre émission. Merci beaucoup Aurélien Allard pour cette discussion passionnante. J'espère, chers auditeurs et auditrices, que vous saurez mieux comment fonctionne la recherche et la science après cette émission. Si cette émission s'est attachée à pointer les défauts du système de production des connaissances et de la publication scientifique, n'oublions pas qu'à ce jour, cela reste le moins mauvais des systèmes. À toutes celles et ceux qui proposent des solutions plus simples et des conclusions plus radicales, prudence, toujours garder son esprit critique allumé. Merci à Aurélien Allard, docteur en philosophie et maître de conférences en méthodologie et statistique à Nantes Université. Merci également à Jérémy et Charlotte pour leur chronique. Une émission préparée par Julie Merlin et réalisée par Sophie Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
FM.